musicale aussi. Bon matin, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour faire une petite annonce aussi. David en a parlé, il y a la réunion d'affaires qui s'en vient cet après-midi. Après le culte, il y aura le repas partage. Vous êtes bienvenus à demeurer avec nous, à rester avec nous, à partager ce repas, à prendre un bon temps de communion pour suivre après ça pour la réunion d'affaires. Pendant le repas partage, j'aimerais ça, tous les diacres qui sont ici ce matin, que vous vous leviez, s'il vous plaît. Ceux qui sont diacres, levez-vous, s'il vous plaît. OK. Alors, voyez, chez les hommes qui sont debout, il y a Bertrand, Richard, Gaétan, Renald, Jean-Pierre, David, Étienne. C'est vos diacres, hein? Ils sont à votre service, ils sont au service de notre assemblée. Et puis, toutes ces recommandations que vous avez pu déjà lire dans ce rapport ont été faites par cette équipe de leaders que vous pouvez identifier, que vous puissiez voir. Puis, j'aimerais vous lancer même l'idée que pendant le repas partage, que vous alliez voir ces gens-là. Posez-leur les questions. Vous avez peut-être lu leur rapport. Ben, posez-leur vos questions. Comment est-ce qu'ils ont vu leur ministère? Et puis, s'il y a des questions sur des votes qui s'en viennent, posez-les. Alors, vous pourrez leur demander quel est leur département, chacun d'entre eux. Mais c'est l'occasion, pendant le repas partage, de même déjà commencer à faire un premier briefing de vos questions. Peut-être qu'il y aura des réponses que vous obtiendrez déjà là, à ce moment-là. Puis, ça va nous préparer, je pense, positivement pour ce qui s'en vient. Merci, messieurs. Vous pouvez vous asseoir. Et merci en passant à cette équipe de diacres hein, qui nous accompagne pour diriger notre assemblée. Oui, c'est bien, oui. OK. On a vu, je vous invite à tourner avec moi dans 1 Pierre. Vous avez déjà vu avec moi les versets 1 à 12 où on a eu l'occasion de voir des belles vérités de ce que Dieu nous a enseigné, de ce que Dieu nous a témoigné. On vient de chanter plusieurs chants qui nous rappellent de ces merveilleuses choses que Dieu a fait pour nous, de son amour qu'il nous a donné, de ce désir qu'il avait de nous faire passer des ténèbres à la lumière. Toutes ces vérités sont importantes pour nos vies. Et ce matin, on va, avec le temps que l'on a, parce qu'on va enchaîner par après aussi avec la table du Seigneur, on va s'arrêter particulièrement au verset 13. Mais juste avant qu'on regarde le verset 13, les vérités qui nous avaient été données, Pierre, je crois qu'il les avait fait, il les avait relevées de façon intentionnelle. Dieu, il nous rappelle qu'il nous a choisis. Dieu nous rappelle qu'il nous a placés dans un plan où il veut nous embarquer et continue de nous transformer. Il veut nous donner, dans les premiers versets, il disait ça, qu'il nous a élus, qu'il nous a sanctifiés, qu'il nous a fait participer à l'aspersion de son sang, qu'on est engagé avec lui, que Dieu, dans sa miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui est gardé dans les cieux, qui peut pas se flétrir, qui peut pas se souiller ni se corrompre, et qui on est gardé maintenant par la puissance de Dieu. Je ne sais pas si jusqu'à quel point ces grandes vérités, on peut les apprécier à leur juste valeur. Que Dieu nous a tellement aimés, nous a placés dans son plan, nous a fait devenir ses héritiers, qui nous garde par sa puissance. Et on avait terminé la dernière fois qu'on avait vu dans Pierre, comment est-ce que les prophètes auraient souhaité et auraient désiré vivre ce moment-là, vivre cette grâce qui nous est réservée, puis que c'était pas pour eux. On a voyé même aussi comment est-ce que les apôtres, comment est-ce qu'il y a eu même plusieurs disciples qui ont été des martyrs, des porteurs de ce message que vous avez entendu, puis que vous avez cru. Il y a des gens qui ont payé le prix de leur vie pour vous apporter ce message-là, il y a plusieurs années, là. C'est ce que le texte nous dit. Le texte nous disait aussi, si vous vous souvenez bien, que même les anges désirent plonger leur regard sur ce qu'on vit, sur ce que Dieu a fait dans vos vies. On se disait, oui, nous autres, on est bien intéressés souvent par le domaine des anges, puis on aimerait ça plonger nos regards sur ce qu'eux vivent. Mais eux, c'est à l'inverse. Ils veulent voir ce qui se passe dans nos vies à cause de l'œuvre de Dieu. Maintenant, ça, c'est toutes les vérités que Dieu nous rappelle puis qui devraient faire vibrer cette corde-là dans notre cœur de quel amour est-ce que Dieu a eu pour nous? On va passer notre éternité à célébrer la richesse que Dieu a manifestée envers son Église. Mais là, on arrive au verset 13 et je vous invite à le lire avec moi. 1 Pierre 1, verset 13. C'est pourquoi, on va arrêter là pour un instant. C'est pourquoi, c'est vraiment, je blague un peu, là, mais on va vraiment arrêter quelques temps. C'est un pivot que Pierre est en train de nous conduire. Quand on a pris le temps de considérer la valeur de ce que Dieu nous a manifesté, la valeur de cet amour-là, qu'est-ce que ça fait dans nos cœurs? Qu'est-ce que ça fait dans nos vies? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça fait vibrer dans notre cœur pour mettre en action? Et là, Pierre va enchaîner une série de recommandations, de préceptes, même d'impératifs. Mais il a quand même commencé avec toute cette œuvre que Dieu a faite dans nos vies, puis du pourquoi ça devrait entraîner maintenant des changements dans nos vies. On va continuer le verset 13. « Saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » On enseigne des enfants, on leur donne beaucoup de recommandations. Hein? Fais ci, fais ça. Si vous êtes un enfant, vous savez ce que je veux dire. Si vous êtes des parents, vous savez aussi ce que je veux dire. Il y a beaucoup de préceptes, beaucoup de recommandations qu'il faut donner aux enfants, que les enfants doivent accepter aussi. Mais ce que les enfants ont besoin aussi d'avoir, c'est des pourquoi. C'est de comprendre, puis d'être motivé, pas simplement parce qu'un ordre, c'est un ordre, mais parce qu'il y a aussi une relation familiale. Et dans cette relation qu'on a avec Dieu, c'est la même chose. Dans le Nouveau Testament, tous ces impératifs, c'est ces ordres ou ces commandements que Dieu nous donne, sont stimulés ou alimentés ou motivés par l'indicatif de la vie chrétienne. Tout ce que Dieu a donné. Tout ce que Dieu a donné devrait nous amener à « c'est pourquoi ». Maintenant, j'ai envie de me relever les manches. La doctrine est une bonne chose à connaître. Et il faut la connaître. Il faut connaître les Écritures. Il faut connaître ce que Dieu nous dit, ce que Dieu a fait pour nous. Mais cette doctrine-là devrait nous amener à découvrir c'est quoi la norme de notre conduite. Qu'est-ce qui dirige ma conduite? C'est pas ce que je ressens. C'est pas ce que j'ai envie. C'est pas ce que les autres me disent que peut-être que je devrais faire parce que me semble que tu vivrais mieux, tu serais mieux comme ça. Mais c'est la norme de ce que Dieu a établi. Et alors, ce que je connais va diriger, par exemple, ma conduite. Ça va devenir la norme. Ça va devenir aussi ce que je connais. Dieu va me communiquer aussi les moyens de faire la conduite. Ce que Dieu, comment est-ce qu'il veut que je marche, par exemple, sur la terre. Même les résultats, la doctrine va définir les résultats de ma conduite. La doctrine va définir la base de notre conduite. La doctrine va devenir la motivation de notre conduite aussi. On arrive au verset 13 et Dieu est en train d'encourager les auditeurs par la plume de Pierre de dire maintenant avec tout ce que vous avez, de ce que Dieu a fait pour vous, c'est pourquoi maintenant, saignez les reins de votre entendement, soyez sobre, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. Je veux juste éclaircir un peu le verset et après ça on va prier et regarder qu'est-ce que Dieu va nous dire par ce texte-là. Dans ce verset-là, il y a un impératif. On a traduit en français trois impératifs. Saignez, soyez sobre et puis ayez une entière espérance. L'impératif qui est là dans l'original, c'est ayez une entière espérance avec deux participes. Saignant les reins de notre entendement et en étant sobre. J'aimerais vous suggérer ce matin que ce que Dieu est en train de nous dire, c'est qu'il veut qu'on ait une entière espérance. Dieu veut que tu aies une entière espérance. Et l'objectif de ce verset-là va nous communiquer justement cet espoir entier sur la grâce qui nous sera révélée. J'aimerais qu'on prie que Dieu nous dirige dans sa parole et qu'il nous enseigne à travers ce verset-là. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer. Ta parole, Dieu, elle est bonne pour nos vies. Elle est bonne pour nos cœurs et Dieu, on ne te louera jamais assez pour tout ce que tu as fait pour nous. Avec ces versets qu'on vient d'énumérer rapidement, ça nous montre comment est-ce que dans un plan éternel, tu voulais nous inclure, tu voulais nous y faire participer. Maintenant, aujourd'hui, Dieu, on veut ouvrir nos oreilles et comprendre qu'est-ce que tu as à nous dire. Qu'est-ce que tu t'attends de nous? Tu nous as fait comprendre ton plan, tu nous as fait comprendre qu'est-ce que tu as fait pour nous. Et maintenant, on veut comprendre aussi qu'est-ce que tu veux qu'on mette en pratique. Viens parler à nos cœurs, que chacun d'entre nous, Dieu, tu viennes nous mettre ton doigt dans nos vies pour qu'on puisse bien comprendre ce que tu veux nous dire. C'est dans le nom de ton Fils qu'on te prie. Amen. Dieu veut que tu aies une entière espérance. Ça, c'est l'impératif, c'est ce que Dieu est en train de nous dire. Ayez une entière espérance. L'espérance, c'est beaucoup plus qu'un sentiment. J'espère quelque chose, puis je vais me croiser les doigts. Cet après-midi, en fin de journée, il y a quelque chose de bien plus spécial qui s'en vient. Hein? Si vous suivez un petit peu le sport. Hein? Une game de hockey? Non, c'est pas ça. C'est pas un casque de hockey. C'est un casque de football. Là. Il y a le Super Bowl qui s'en vient. Les deux équipes qui vont s'affronter, eux, ils doivent avoir espérance de gagner. Les deux peuvent espérer gagner, mais vous savez pertinemment qu'il y en aura une seule qui va se retrouver avec la victoire. Ils peuvent espérer, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont l'avoir. Maintenant, est-ce que ces équipes-là, ils sont préparés? À votre avis, là, à l'heure où on se parle, qu'est-ce qu'ils font ces gars-là? Là? Ils doivent essayer de contrôler leur respiration, sont un peu nerveux, et puis essayer de garder leur énergie, puis essayer de se concentrer, de se préparer pour ce qui s'en vient, qui se trouve à être en fait l'événement sportif le plus médiatisé qu'il peut y avoir. Hein? Vous savez que c'est les spots publicitaires qui se vendent les plus chers au Super Bowl. C'est vraiment regardé par tout le monde. Maintenant, il y a une espérance que ces hommes-là peuvent avoir et qu'ils vont être sûrs de l'avoir. C'est que quand que le botté d'envoi va se faire, parce qu'au football, ça va commencer comme ça. Si vous regardez le match, et un petit monsieur va courir, va kicker le ballon. Et là, le ballon, il va être dans les airs. Et l'espérance que tout le monde peut avoir, c'est que le ballon, il va retomber. Ça paraît évident, hein? Mais quand que le ballon, il est dans les airs, il n'y a pas personne qui se dit, oh, on vient de perdre le ballon. Le ballon, il est perdu, il s'est en allé dans les airs. Il n'y a pas personne qui va réfléchir comme ça. À un tel point que les gars, quand ils voient le ballon dans les airs, il n'y en a pas un qui reste en place. Il n'y en a pas un qui se tourne les pouces en se disant, hein, perdu le ballon. Le ballon, il est dans les airs et tout le monde court et puis tout le monde le veut, le ballon. Et ça, c'est l'espérance qui qualifie cette espérance que Dieu veut qu'on ait. Une espérance aussi sûre que tout ce qui monte doit redescendre. Une espérance aussi sûre que si Dieu t'a sauvé, il t'a sauvé. Il veut que tu aies cette espérance-là dans ton cœur, que tu es sûr que s'il t'a sauvé, tu es dans ses mains. Ayez une entière espérance. Pas juste de « on va se croiser les doigts puis on va espérer ». Une entière espérance. Au point même où ce que quand vous savez, vous êtes entré dans la vie chrétienne, vous avez commencé à courir. Vous étiez prêt vous aussi. Vous vous êtes préparé. Comme ces gars-là qui vont courir quand le ballon va être dans les airs, la vie chrétienne ressemble à ça. On a cette espérance-là que Dieu, quand on lui appartient, on lui appartient, mais que ça va engendrer nécessairement une mise en action maintenant. Quand que, par exemple, une équipe de football veut avoir la victoire, leur objectif, ils vont fixer le but. Ils vont regarder là où est-ce qu'ils veulent aller. C'est l'attitude que le chrétien doit avoir. C'est l'attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir premièrement. Si on regarde cet impératif que Dieu nous donne au verset 13, à la fin du verset 13, il dit « Ayez une entière espérance ». L'enfant de Dieu doit fixer ses yeux sur cet objectif-là, sur ce qui s'en vient. Et c'est vers ça qu'on s'en va. Et c'est de ça qu'on doit s'alimenter puis qu'on doit s'entretenir. Maintenant, l'espérance, c'est quoi? L'espérance véritable est une réalité spirituelle, vitale. On fait souvent référence, particulièrement dans le Nouveau Testament, de trois vertus qui vont ensemble. La foi, l'espérance et l'amour. Et de ces trois, reste l'amour, que 1 Corinthiens 13 nous dit. Mais les trois sont intimement liés. La foi, l'espérance et l'amour, les trois sont intimement liés. Par nature, l'espérance est identique à la foi. C'est-à-dire que la foi et l'espérance, c'est la confiance que l'on a en Dieu. La confiance de ce qu'on a en Dieu. Dieu veut qu'on ait une entière espérance, une pleine confiance. Mais la différence principale entre les deux, c'est que la foi implique la confiance en Dieu pour des circonstances présentes, alors que l'espérance s'applique au futur, aux choses encore à venir, aux promesses que Dieu nous donne. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Notre foi est alimentée par ce qu'on entend et de ce que Dieu nous dit. Et quand on se convertit, par exemple, qu'on donne notre vie à Dieu, c'est parce qu'on a placé notre confiance en Dieu pour nous détourner aussi de nos péchés, pour se repentir et de croire en lui. Puis l'espérance, c'est cette confiance que l'on a en Dieu pour tout ce qui s'en vient aussi, des promesses que Dieu nous a données, du plan que Dieu va accomplir. Est-ce qu'on a cette espérance-là entière dans nos vies, dans nos cœurs? Je vous invite à tourner avec moi dans Romains 8. Gardez votre doigt quand même dans 1 Pierre, on va y revenir. Dans Romains 8, verset 23. La foi s'approprie ce que Dieu a déjà dit et en fait dans sa révélation écrite. Et fait dans sa révélation écrite. Tandis que l'espérance porte sur ce qui reste à faire dans les promesses de l'Écriture. Si on parle de l'amour, l'amour est l'évidence de notre foi et de notre espérance. Par exemple, regardez Romains 8, verset 23. À partir du verset 23 jusqu'à 25. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec quelle attitude? Avec persévérance. Exactement. Alors, puis la foi, c'est la même chose. On aurait pu en donner une définition semblable. Est-ce que je peux avoir la foi de quelque chose que j'ai déjà vu? La foi, c'est de croire quelque chose que j'ai pas vu encore. Et l'espérance, c'est l'espérance de quelque chose que je sais qu'il s'en vient, mais que j'ai pas vu encore. Et juste pour rappeler le verset 24, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Cette confiance que l'on a en Dieu, cette foi et cette espérance qui fait qu'on est sauvé. La foi est une ferme assurance de quoi? Des choses qu'on espère. Les trois vont ensemble. Revenez avec moi dans 1 Pierre. Dieu veut qu'on ait cette entière espérance. Et j'insiste pour rappeler que c'est cet impératif que Dieu nous donne. Ayez cette espérance-là de façon complète, parfaite et entière. On espère quoi? On va juste lire 1 Pierre 1, on va aller au verset 1, on va y revenir plus tard quand on sera rendu là, dans notre série. Mais Pierre, il dit, « Par lui, vous croyez en Dieu, par Jésus, qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. » Notre espérance ne tient que de la générosité de Dieu à notre égard. Notre espérance ne dépend pas de circonstances variables, mais elle est attachée à Dieu, qui est immuable, qui nous donne, qui est très généreux. Est-ce que vous croyez que Dieu, si vous êtes un enfant de Dieu, est-ce que vous croyez que Dieu vous a pardonné vos péchés? Est-ce que vous croyez que Dieu a même pardonné vos péchés futurs? Quand Dieu nous pardonne, il nous a sauvés. Puis il y a l'accomplissement du salut qui est à venir aussi, qui nous a sauvés, oui, de nos péchés, pardonné de nos péchés passés, présents, mais aussi futurs. On a obtenu la rédemption de nos âmes, mais il y a aussi une partie à venir encore à laquelle on espère. On est déjà présentement en communion avec Dieu, mais il y a aussi une partie où on sera en cohabitation, où est-ce qu'on va voir Dieu face à face, que même le texte nous dit. 2 Corinthiens 4, 17 nous dit que même dans l'espérance que l'on a, c'est d'obtenir même un poids éternel de gloire à cause de cette espérance qu'on aura eue en Dieu et des bénéfices associés à la perfection éternelle que Dieu va nous communiquer. Je veux juste vous citer Tite 2 avant qu'on revienne à notre verset 13. Tite 2, 11 à 14 dit « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Et cette grâce nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié et zélé pour des bonnes œuvres. Cette grâce que Dieu nous a communiquée nous emmène, que le texte nous dit, à renoncer à un monde de vie impie, mais de continuer de vivre avec persévérance en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de notre Sauveur Jésus-Christ. Pierre, il dit, « Ayez une entière espérance. » Est-ce que tu as cette espérance complète que ce que Dieu a fait en toi, qu'il va continuer de le faire, qu'il va le mener à terme? Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu entretiens ces vérités pour avoir cette entière espérance? Puis Pierre y amène, regardez la fin du verset 13, « Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. » C'est intéressant de voir que Pierre nous ramène à notre indignité. J'ai une espérance qui n'est pas fondée sur ce que je mérite, mais sur la grâce de Dieu qui sera manifestée. Pierre n'a pas tourné notre attention vers les détails eschatologiques de Apocalypse, les détails de la fin des temps, de tout ce qui s'en vient. Oui, il parle du retour du Seigneur, mais ce qui attire notre attention, c'est la manifestation de la grâce. Cet accomplissement de l'œuvre de Dieu qui a commencé en nous, en dehors de tout le mérite humain, qui va s'accomplir encore à la fin. Pierre avait entendu Jésus enseigner, par exemple, sur le mont des Oliviers en ce qui concerne les détails de la fin. Puis Pierre, dans son deuxième épître, va en parler aussi, des détails eschatologiques. Mais là où ce que Dieu nous ramène, c'est d'avoir cette entière espérance de la grâce qui sera manifestée, qui sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Dieu veut qu'on ait une entière espérance. Et si je dois fixer mes yeux sur le but, ça c'est l'espérance. Quand que je suis, imaginons par exemple les joueurs de football qui vont jouer cet après-midi, quand ils vont sauter sur le terrain de football, leur objectif, c'est de gagner. On pourrait dire que l'important, c'est de participer. C'est pas vraiment ça qu'ils vont se dire. Ils vont se dire, ce que je veux, c'est gagner. Notre espérance que l'on a en Dieu, elle est certaine. Nos yeux doivent être fixés sur cette certitude que l'on peut avoir, une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est ce que Dieu veut que l'on ait. Mais pour ça, il faut se dégager de tout ce qui traîne, de tout ce qui nous empêche d'avoir des mouvements amples. Regardez le verset, on va revenir au début du verset 13. « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. » Les joueurs, par exemple, de football, pour garder cette même image-là, ceux qui sont à l'offensive, eux, ils peuvent se faire accrocher par les joueurs de la défensive. Ils peuvent se faire ramasser le gilet et puis se faire jeter par terre. C'est un petit peu violent le football, hein? Si vous avez jamais vu ça, là, des fois c'est un petit peu rough. Mais les joueurs offensifs peuvent se faire ramasser le gilet et tout ce qui dépasse peut se faire accrocher. Alors imaginez si vous êtes à l'offensive, ça va être quoi votre tactique? Il n'y aura rien qui va traîner derrière vous autres. Et si vous avez des chandails lousses, vous allez les attacher, vous allez l'attacher le plus serré possible pour que l'adversaire ne sera pas capable de vous attraper puis de vous accrocher. Cette image que l'on a avec Dieu, dans notre marche chrétienne, c'est la même chose. Revenez avec moi au verset 13, il dit « Saignez les reins de votre entendement ». L'expression que Pierre est en train d'utiliser était bien compris des gens de cette époque-là. Ces gens qui avaient, par exemple, des tuniques avec un ceinturon, comme par exemple un soldat, s'ils devaient sauter dans la mêlée, l'idée, c'est de rattacher tout ce qui peut traîner puis de le bloquer à son ceinturon pour être capable d'aller dans la mêlée sans avoir rien qui traîne. Dieu est en train de nous dire nos pensées, notre entendement. Quand on marche sur la terre, quand on vit notre vie chrétienne, est-ce qu'on se traîne les pieds? Est-ce qu'on est plus ou moins intéressé à suivre Dieu? Est-ce qu'il y a des choses qui traînent dans nos vies qui ne devraient pas traîner, puis que l'adversaire peut accrocher, puis nous garder un petit peu au ralenti? Saignez les reins de votre entendement. Dieu est en train de nous dire tout ce qui est large dans nos vies, large dans le sens que ce qui traîne, ce qui nous empêche de, oui, on regarde le but, oui, on regarde l'objectif, mais est-ce que je m'arrange pour être capable d'avancer vers cet objectif-là avec rien qui va me bloquer? La discipline de nos pensées, de mener une existence en accord avec les priorités divines, se décharger du fardeau du péché qui nous enveloppe si facilement, de mener une vie juste en honorant Dieu, en vue de la grâce accompagnant le futur du retour du Seigneur. Paul, il dit la même chose. Je vais juste vous citer Éphésiens 6, 14. « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. » Dieu est en train de nous dire, « Saignez les reins de votre entendement pour être capable d'avoir cette entière espérance. » En lui. Est-ce que j'ai pris la décision de m'attacher à Dieu? À partir du moment que j'ai donné ma vie à Dieu, Dieu est devenu mon maître, mon Seigneur. Est-ce que je renouvelle cet engagement-là continuellement avec lui, de dire « Dieu, t'es mon maître. Jésus, t'es mon maître. » J'ai pris cet engagement-là, mais je le renouvelle aussi continuellement. Qu'il n'y a rien qui, dans ma vie, vient faire obstruction à cette marche que je peux avoir avec lui. À fortifier notre bonne volonté, à fortifier notre connaissance de ce que l'on a de Dieu, nos pensées sont polluées par toutes sortes de choses, par des préoccupations, par des inquiétudes, par des ambitions, par toutes sortes de choses. Nos pensées peuvent être polluées. Est-ce que nos pensées, on les saint, comme ce que Dieu est en train de nous dire, on les attache, qu'on les dirige vers ce que Dieu veut qu'on fasse, ce qui nous attend. Dieu veut qu'on ait une entière espérance. Et le dernier point que je voudrais relever, on va continuer le verset 13, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement et soyez sobres. Si j'ai besoin de saigner mes reins pour qu'il n'y ait rien qui m'en empêche, la sobriété dans la vie chrétienne est quelque chose d'important aussi. Pierre le relève, regardez avec moi, vous ne tournez pas beaucoup loin, là. 1 Pierre 4. Pierre en parle deux fois. Pierre, c'était le genre de gars un peu zélé des fois à l'excès, hein? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Hein? Jésus, il dit, je dois aller, le berger sera frappé ce soir, les brebis seront dispersées. Et là, Pierre, c'est un excès de zèle. Moi, Jésus, je vais aller avec toi jusqu'à la mort et je vais te suivre. Quand même que les autres te suivront plus, moi, je vais y aller. Les paroles de Pierre, c'est des belles intentions, mais il manque d'avoir un cœur sobre par rapport à ce que Jésus est en train d'y communiquer. Et il a compris ça par la suite parce qu'il relève. Regardez 1 Pierre 4, 7. La fin de toute chose est proche. 1 Pierre 4:7. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. C'est un enseignement qu'il avait compris, hein, Pierre, de la part du Seigneur. Vous vous en souvenez-vous dans le jardin où Jésus lui avait dit « Veillez et priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez. » Et à les trois reprises que Jésus revenait, qu'est-ce que Pierre y faisait? Il dormait. Regardez 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce que Pierre est en train de dire, ce que Dieu est en train de dire, ça s'adresse à nous aujourd'hui. On a une loi dans notre société qui est très bien, qui condamne l'ivresse au volant. Parce que tout le monde sait pertinemment que c'est dangereux. Parce que quand on est ivre, ce qui est l'opposé de la sobriété, on n'a plus le contrôle. Puis on ne voit plus vraiment en ligne droite. Et les gens qui conduisent en état d'ivresse, ben on en voit régulièrement, qui causent des accidents et ils sont répréhensibles. Ce que Dieu est en train de nous demander, c'est d'avoir un contrôle de notre marche avec lui. Un contrôle de nos vies, une maîtrise de soi. Est-ce que je suis emporté à tout vent de doctrine? Est-ce que je suis emporté par n'importe quel zèle qui finalement me détourne encore une fois de où je veux aller, de cette entière espérance de ce que Dieu veut avoir comme plan pour ma vie? L'idée de sobriété dans la vie chrétienne, c'est de ne pas perdre le contrôle de nos actions, de nos pensées. Dieu veut nous faire grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ pour pas qu'on soit justement comme des enfants ou qu'on a de la misère à marcher ou qu'on soit emporté à tout vent de doctrine. Est-ce que ça veut dire que si la vie chrétienne, on doit être sobre, c'est synonyme que c'est plate? Hein? Dans la vie chrétienne, on doit pas éprouver de la joie. C'est pas du tout ce que Pierre est en train de nous enseigner. C'est pas ce que Jésus nous enseignait, que Dieu nous communique. Mais c'est beaucoup plus l'idée de la marche que j'ai avec Dieu. Tournez avec moi dans 2 Timothée. Éphésiens 5, 18 dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Le meilleur moyen pour avoir une vie sobre, c'est d'être conduit par l'Esprit. C'est d'être conduit par Dieu lui-même. Et ainsi, de cette façon-là, on n'accomplira pas les désirs de la chair, mais les désirs de l'Esprit. Ce que Galates 5, 16 nous dit. 2 Timothée 4. On va lire les versets 1 à 5. 2 Timothée 4, les versets 1 à 5, va nous montrer un bel exemple de ce qu'un manque de sobriété peut ressembler ou peut nous conduire. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec douceur, avec toute douceur, et en instruisant. » Paul est en train de dire à Timothée, enseigne la parole continuellement dans les occasions qui sont défavorables, les occasions qui sont favorables. Il faut que la vérité de la parole de Dieu soit exposée. Pourquoi? Pour que ce qu'on connaît de la doctrine influence directement notre conduite. Pour que notre conduite soit dirigée parce qu'on a de la connaissance de la parole de Dieu. Et là, on arrive au verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables et se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Il va venir un temps, Paul il dit ça à Timothée, il y a plusieurs centaines d'années. Là. Est-ce que ça se peut qu'on soit présentement dans une époque qui peut ressembler à ça? Absolument. quelle est notre vie chrétienne présentement sur la terre? À quoi est-ce qu'elle ressemble? Dieu nous dit, ayez une entière espérance, saignant vos reins de votre entendement et en étant sobre. Les gens vont se donner une foule de docteurs, vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils vont se donner selon leur propre désir, ils vont détourner l'oreille de la vérité, se tourner vers des fables. D'être sobre, c'est d'être attentif à ce que Dieu nous communique, d'être attentif à sa parole, de se diriger d'après elle et de ne pas se laisser influencer à gauche et à droite par tout ce qui peut nous être dit puis tout ce qui peut nous tenter. Regardez juste un petit peu plus loin si vous êtes toujours dans 2 Timothée 4, le verset 10. Démas, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Démas était un homme qui avait déjà été utile dans le ministère de Paul, qui suivait Dieu et qui accompagnait Paul. Et là, on arrive au verset 10. Ce même Démas a changé son chemin par amour pour le siècle présent. On doit veiller sur notre marche. Est-ce que je fixe le but? Est-ce que mes pensées sont bien attachées dans une direction? Et est-ce que je marche avec cet état de vouloir avancer sans me laisser influencer par ce qui se passe à gauche et à droite? Les joueurs de football, si vous les regardez cet après-midi, ils vont être concentrés sur le ballon. C'est ça qu'ils veulent gagner ou défendre leur territoire. Et s'ils se laissent influencer parce qu'à un moment donné, il y en a un qui est trop surexcité puis il décide de faire quelque chose qui peut faire une bourde à l'équipe, bien, ils peuvent perdre du terrain. Ça peut causer préjudice à l'équipe parce qu'il manque peut-être, parce qu'il y a eu une mauvaise punition ou quoi que ce soit. Dans notre marche avec Dieu, c'est la même chose, la maîtrise de soi. C'est ce contrôle, cette sobriété que Dieu veut que l'on ait. Les deux expressions de ceindre les reins de notre entendement puis de rester sobre sont prises ensemble comme aux deux extrémités de l'espérance de ce que Dieu veut que l'on ait. Ceindre les reins corrige une attitude peut-être trop désinvolte ou peut-être qu'on se traîne un peu les pieds, puis il y a peut-être des choses dans nos vies qu'on néglige dans notre marche avec Dieu. Imaginez le soldat de l'expression que Pierre emploie, saigner les reins. Le soldat qui saute dans la mêlée, il sait c'est quoi qu'il doit faire. Et il ne veut pas être pris par l'adversaire. Dans notre marche chrétienne, Pierre, il nous dit dans 1 Pierre 5, « Veillez, soyez sobres, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. » On en a un adversaire et on a besoin de ceindre nos reins. Et si ceindre les reins peut nous amener à corriger une attitude trop désinvolte, rester sobre peut prévenir le genre d'enthousiasme aveugle ou de perte de contrôle de nos vies qui nous empêche d'aller en direction, en ligne droite de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Dieu veut qu'on ait une entière espérance. Est-ce que vous avez cette confiance en Dieu? Non seulement de ce que Dieu vous dit puis que vous mettez en pratique, mais de cette espérance de ce que Dieu a placé devant vous. C'est ce que Dieu nous demande, d'avoir cette entière espérance. J'aimerais qu'on prie, qu'on place nos cœurs devant Dieu, qu'on demande à Dieu de venir toucher nos cœurs, et même pendant la période de la table du Seigneur, qu'on prenne le temps d'exposer nos cœurs devant Dieu, qui vienne faire la lumière et qui nous montre des choses dans nos vies qu'on a besoin de corriger. Seigneur, on vient devant toi parce que ta parole nous dit que tu veux qu'on ait cette entière espérance. Une espérance aussi sûre que tout ce qui monte doit redescendre, c'est l'espérance que l'on a en toi, Dieu. Cette espérance qu'on veut alimenter continuellement, cette confiance que ce que tu as dit, tu vas l'accomplir. On va avoir cette foi et cette espérance comme Abraham avait quand tu lui avais fait la promesse. Il a cru en toi. Dieu, on a cette espérance qui nous emmène à persévérer présentement dans nos vies. on le sait que ce que tu as commencé dans ce, en nous plaçant dans ton plan, que tu vas l'accomplir parfaitement. Puis Dieu, on veut prendre cet engagement-là aussi avec toi, de ceindre les reins de notre entendement, de diriger nos pensées vers toi et de ne pas se laisser influencer par ce qui nous retient. D'avoir une vie sobre, comme tu nous demandes, une vie chrétienne sobre, c'est-à-dire que on veut s'engager avec toi de marcher et de ne pas se laisser influencer. Que ce soit par les valeurs du monde, que ce soit par les enseignements, les fables, les choses qu'on voyait tantôt dans ta parole que des hommes vont serrer, Seigneur, dans leur cœur. C'est pas ce qu'on veut faire. On veut serrer ta parole dans nos cœurs. On veut se diriger d'après elle. On veut se diriger de près ta volonté afin de ne pas pécher contre toi. Dieu, on veut te louer et t'adorer pour ce que tu fais dans nos vies, pour cet amour, pour cette grâce que tu nous promets, qui nous sera bientôt apportée. C'est dans ton Fils qu'on te prie ces choses. Amen.